おかしいおかしい。おかしい。
C'est le Centre Congolais à présent avec Jean-Paul Tumbakamon à la présentation.
Bonsoir, 10e anniversaire du Rassemblement Congolais pour la Démocratie, RCD. Azarias Rouberoy, président de ce parti, critique la dictature de la majorité au pouvoir. Rouberoy, vous allez l'entendre dans cette émission, ne va pas par quatre chemins. Il plaide pour le changement du gouvernement d'Antoine Gizenga. À quel niveau le président du RCD constate-t-il la dictature de la majorité au pouvoir? Quelle perspective pour la démocratie en RDC? C'est le thème de discussion dans cette émission Dialogue entre Congolais. La plupart des réactions de nos auditeurs sur le sujet fustigent la critique du président du RCD, mais d'autres l'en félicitent. Vous allez les découvrir dans cette émission avec, pour invité, Kabasubabo Katulondi, le secrétaire général du RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie. Maître Jean Mbouyou, il est aussi député national du PPRD. Et Modeste Mbonigaba, il est analyste politique, membre de la société civile, qui a publié beaucoup d'ouvrages. Voilà, Maître Jean Mbouyou, ce n'est plus Maître Jean Mbouyou, comme on me l'a annoncé, c'est plutôt pour 2000 ans qui est en face de moi. À tous, je souhaite bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081-05-15-778 ou appelez-nous au 081-890-66-78.
10e anniversaire du Rassemblement Congolais pour la démocratie. Azarias Rouberoy, président de ce parti, critique la dictature de la majorité au pouvoir. À quel niveau constate-t-il cette dictature? Je vous signale que le président du RCD a adressé sa critique lors du 10e anniversaire d'existence de son parti. C'était au cours de sa conférence débat politique le samedi dernier à Kinshasa. Pour le numéro 1 du RCD, son parti continue à jouer le rôle de dénonciateur des antivaleurs qui, selon lui, prennent l'avancée de la démocratie à RDC. À ce sujet, Azarias Rouberoy pense que le gouvernement Gizenga est incapable de satisfaire les attentes de la population, ce qui l'amène à exiger son changement rapide. Azarias Rouberoy s'explique au micro d'Afrika Zigbertaï.
Nous sommes allés aux élections, espérant que des institutions aussi des élections, la population va vivre mieux. C'est-à-dire que les dirigeants auront peur d'être sanctionnés, seront comptables de leurs actions, et donc vont améliorer les conditions de vie en général mieux. Mais combien de gens nous croisons qui nous disent que même la transition, avec sa célèbre formule de 1 plus 4, valait et travaillait encore mieux que le gouvernement actuel. Et les gens de l'ANC sont aussi convaincu qu'il faut changer de gouvernement, mais il faut le faire maintenant. Je l'appelle solennellement aux responsables de la majorité présidentielle et en particulier au président de la République et même au premier ministre. Nous avons à Israël le premier ministre qui vient de démissionner, qui va quitter le pouvoir au mois de septembre, parce qu'il est accusé de corruption. L'opposition n'est pas là pour se réjouir des malheurs de la population. Il faut changer ce gouvernement.
Il faut changer ce gouvernement, c'est Rouberoy qui le dit, et il dit même que même à l'AMP, on souhaite le changement de ce gouvernement. Aubin Minako, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, je vous ai annoncé, Maître Mbouyou, c'est parce qu'en fait, au niveau de la réalisation, on avait un peu du mal à vous avoir en dernière minute. Dieu merci, les choses se sont arrangées. Et tout de suite avec vous, justement, Aubin Minako, comment est-ce que vous pouvez répondre à Azarias Rouberoy qui estime que ce gouvernement, il faut le changer?
Bon, je dirais d'abord que, effectivement, nous sommes dans une ère de démocratie dans notre pays. Il y a une constitution qui procède de façon claire à une répartition des prérogatives entre les différents pouvoirs et il y a des mécanismes de contrôle prévu par cette constitution, contrôle effectué par le Parlement, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale.
Dans votre parti.
Merci. Et plus d'une fois, des ministres du gouvernement ont été interpellés à l'Assemblée nationale. Nous avons même connu une motion de défiance contre un ministre du gouvernement.
Et c'est souvent limité là-bas.
Nous avons, j'ai dit, connu même une motion de défiance. C'était déjà une avancée significative quant à l'histoire de la démocratie dans notre pays. Et donc, les mois qui suivent, l'Assemblée nationale, le Sénat, vont pleinement exercer leurs prérogatives constitutionnelles. S'il faut sanctionner le gouvernement ou un ministre, aujourd'hui ce n'est plus un tabou. C'est prévu par la Constitution et je suis convaincu que les députés particulièrement, nous assumons suffisamment quant à ce. Et donc ça ne m'étonne pas, ça ne me met pas, c'est tout à fait normal qu'un opérateur politique de la majorité ou de l'opposition puisse, après ses propres analyses fondées ou pas, proposer une sanction du gouvernement. Nous sommes dans la démocratie. Il n'y a rien de particulier dans cette démarche.
Mais, Obama Minako, est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous pensez que le gouvernement Gizenga, en fait, il est temps qu'on le change?
Je dis ceci. L'essentiel aujourd'hui, c'est que nous avons des mécanismes constitutionnels et des institutions qui peuvent sanctionner un gouvernement, le gouvernement de la République, qui peuvent sanctionner chaque ministre à tout moment. Bien évidemment, je ne dirais pas que ce gouvernement fonctionne comme il se doit à 100%. Il y a des failles. Personnellement, je suis de ceux qui ne se gênent pas de critiquer les failles du gouvernement.
Et il faut le changer.
Le changer. La prérogative pour changer un gouvernement revient, je crois, au Premier ministre, revient au Président de la République, essentiellement au Premier ministre. Et donc, le Premier ministre, s'il estime qu'il faut changer ses ministres, cela rentre dans ses droits, mais l'Assemblée nationale peut aussi, à son niveau, agir conformément à toutes les prérogatives que lui accorde la Constitution.
Mais on a compris, Aubin, vous êtes en train d'éviter de dire si vous êtes oui ou non pour le changement de l'équipe. En un mot, Aubin Minako.
Mais pourquoi nécessairement dire oui ou non, il faille changer l'équipe? Je vous dis que l'essentiel pour la nation, c'est que nous ne sommes pas dans une dictature. Le gouvernement ne peut pas s'imposer à tout moment. Le gouvernement ne peut pas continuer à diriger lorsqu'il y a beaucoup de failles. Et quand nous constatons que les prérogatives du gouvernement ne sont pas exercées comme il se doit, l'essentiel pour nous, hommes politiques, hommes d'État, c'est de recourir à la Constitution. Heureusement pour le Congo, aujourd'hui, aucune institution de la République, en commençant par le président de la République, n'empêche la mise en œuvre des mécanismes constitutionnels, notamment pour faire partir tout un gouvernement.
Tabassou Babo, quand ils l'ont dit, vous êtes secrétaire général du RCD, et donc le RCD, dont le président, lui, n'y va pas par les deux de la cuillère, comme on dit, hein, il faut le remaniement du gouvernement du Sénat.
Et puis, lorsqu'il y a démocratie, je veux d'abord que l'on puisse comprendre. Je m'adresse donc aux auditeurs, que je salue en passant, partout sur la République. Et donc, lorsque l'on procède aux élections comme celles que nous avons expérimentées dans ce pays, ce sont des élections qui ont une finalité refondatrice. Ce sont des élections qui doivent enclencher, n'est-ce pas, un processus, une dynamique de renouvellement, de renouveau du pays. Malheureusement, on a comme l'impression que la majorité, non seulement la majorité, je veux dire, le système politique en général, le système politique est prisonnier d'une espèce de démocratie de façade qui se limite à la révision constitutionnelle, qui se limite aux réformes institutionnelles, qui se limite aux élections. Ce que Larry Diamond a appelé une autocratie électoraliste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que si on pouvait véritablement insuffler, injecter l'esprit démocratique, n'est-ce pas, dans le gouvernant, dans le tenant du pouvoir, dans le régime de la totalité, les chefs de l'État, nous sommes le Premier ministre, le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre à eux-mêmes et les acteurs politiques qui opèrent dans les organes délibérants, allaient comprendre la nécessité, ou sur l'urgence, l'impératif absolu pour les gouvernants de répondre aux besoins réels tangibles de la population.
Mais à quel niveau il y a urgence?
Il y a urgence par rapport au fait que le peuple est soumis, n'est-ce pas, à une misère déshumanisante. 2 ans après les élections, après que le souverain primaire ait été, n'est-ce pas, aux urnes, si vous regardez dans la ville de Kinshasa, les transports publics, la santé publique, les universités, et j'en passe, les grands services publics.
C'est ça, on a vu quand même des nouveaux bus, non,
les nouveaux bus, mais c'est à Kinshasa, par rapport aux besoins qu'il y a, à Massina, à Kinasani, à Salamabila, partout dans la ville de Kinshasa, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il y a urgence par rapport à la souffrance de la population. Vous ne savez pas ce qui se passe lorsqu'il a plu, lorsque vous passez sur la route, vous êtes choqués. Et donc, je pense que l'appel de Roubaix-Roi, c'est un cri de cœur par rapport à cette espèce de masochisme étatique que l'on observe maintenant. C'est comme si les gouvernants éprouvaient une espèce de délectation, de plaisir dans la souffrance de la population. L'appel des Roubaix-Roi, c'est pour dire arrêtez la souffrance de la population, donnez-nous un gouvernement, ma foi, qui est capable de comprendre la souffrance de la population, non seulement à Kinshasa, mais également dans toute la République. Si vous allez sur nos fleuves, les gens qui sont sous des barges souffrent, voyagent dans des conditions, on ne peut plus, déshumanisantes. Si vous allez dans les trains, c'est la même chose. Vous allez dans les hôpitaux, que ce soit à Sindoui, à Lubumbashi, à ma foi, un hôpital qui est bâti au-dessus du cobalt et du cuivre, c'est des mouroirs. Vous allez à Bungu, la maternité de Bungu, les dames accouchent sur une espèce de plaque, il n'y a même pas de table des tables adéquates. Et donc, c'est par rapport à cette souffrance, j'ai la qualité de déshumanisante et qui nous déshonore par rapport à nos amis qui viennent ici nous rendre visite, par rapport à ces Congolais de l'étranger qui viennent de rentrer. Allez leur poser la question. Il y en a qui ne se retrouvent plus. Les gens qui sont partis en 1980, aujourd'hui, ils ne se retrouvent plus dans la ville. Et donc, il y a urgence par rapport justement à cette souffrance. Elle ne nous honore pas du tout. Et donc, nous estimons que en fait, maintenant, les analystes disent que les Congolais sont en train de vivre la désillusion, le désenchantement électoral. Et donc, nous risquons, n'est-ce pas, de défigurer les élections et nous limiter à ce qu'on appelait justement, lors de notre conférence politique, une démocratie de façade.
Démocratie de façade, Aubert, vous allez réagir. D'abord, on prend Modeste Bonigaba, qui est aussi dans ce débat. Bonsoir, Modeste.
Bonsoir.
Oui, vous avez surtout cette chance-là d'intervenir comme membre de la société civile. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une urgence de remaniement du gouvernement avec la misère et la souffrance qui sont accrues selon Kabasuba Bovala?
Oui, je suis d'accord avec ce que M. Kabasuba vient de dire lorsqu'il dit que en réalité, l'Afrique n'a eu droit qu'à une démocratie de façade. Parce que lorsque nous prenons le début du processus de démocratisation en Afrique, qui démarre au début des années 90, nous nous rendons compte que l'évaluation qui a été faite en 2002 par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui curieusement avait tenu son séminaire à Pretoria, au moment même où se tenait le dialogue intercongolais, évaluation selon laquelle la démocratie telle qu'elle était pratiquée en Afrique depuis le début de ce processus, c'est-à-dire depuis 90, avait produit des résultats tout à fait mitigés. Et le président de la Commission africaine des droits de l'homme de conclure qu'il faut pour l'Afrique imaginer des formules nouvelles pour donner à la démocratie tout son contenu et toute sa substance. Il se fait que malheureusement, nos compatriotes qui étaient à ce moment-là en dialogue à San City, dans l'un des Pretoria, n'ont pas pris en compte les conclusions de ce séminaire organisé pourtant pour eux. Aujourd'hui seulement, ils se rendent compte qu'il faut changer de gouvernement, alors qu'en réalité, c'est tout le système de démocratie qui a été mis en place en Afrique depuis 90, qui doit être revu. Ce n'est pas seulement les gouvernements qu'il faut changer. Jacques Chirac avait dit au début des années 90 que la démocratie à l'occidentale, transposée en Afrique sans adaptation préalable, était un luxe. Tout le monde l'a pris pour un racisme. En réalité, ce qu'on voit là est la preuve. Ce qu'on vient de voir au Zimbabwe, ce qu'on a vu au Kenya et partout ailleurs, c'est la preuve qu'il faut absolument adapter la démocratie aux réalités africaines.
Donc, Modeste Bonigaba, pour vous, il faut aller au-delà du remaniement.
Mais bien sûr, le remaniement ne changera rien, n'apportera rien de substantiel. Parce que le système dans lequel on évolue, le système dans lequel le contrôle du citoyen, du souverain primaire n'est pas effectif, ne peut rien produire de bon. Parce que si nous avons des gouvernants que nous avons, c'est tout simplement parce que le contrôle et la sanction conséquentes ne sont pas au rendez-vous. Si les gouvernants avaient en face d'eux des citoyens capables de leur montrer qu'effectivement ils ne travaillent pas bien et qu'ils vont sanctionner sévèrement par toutes sortes de mécanismes constitutionnels, les choses ne se passeraient pas comme se passe aujourd'hui.
Est-ce que par là vous interpellez le Parlement, Modeste Mounir-Gaba?
Mais pas du tout. Le Parlement lui-même est issu de ce système. C'est tout le système de démocratie qu'il faut revoir pour l'Afrique. On parle aujourd'hui de plus en plus de démocratie participative, celle qui permet à chaque citoyen, selon ses aptitudes, parce qu'on ne tient pas compte des aptitudes des citoyens aujourd'hui.
Bon, on va arriver aux perspectives, Modeste Mbonigaba. D'abord avec Aubin Minaku, voilà, on parle de démocratie de façade. En fait, c'est Thomas Babo qui l'a dit, et même Modeste Mbonigaba aussi l'a soutenu, pour dire que les élections, finalement, risquent de ne pas donner le résultat escompté par la population, dans le sens que, finalement, vous n'aurez pas répondu, vous, les élus, aux besoins de la population.
Bon, je ne pense pas que notre démocratie soit déjà parfaite et atteint la perfection. Parce que même les vieilles démocraties, Grande-Bretagne, en Europe, aux États-Unis, n'ont pas encore atteint la perfection. Si je dois comparer notre démocratie naissante à partir des élections passées par rapport à ce qui s'est passé au Zimbabwe, au Kenya et ailleurs, je crois que, en étant positif dans l'analyse, le Congo a fait un pas acceptable sur le chemin de la démocratie. Parce que les élections organisées au Congo, quoi qu'on dise, ont été faites de façon normale, selon le standard international. Et donc, nous faisons un pas, un petit pas, mais déjà, c'est un pas vers l'avant.
Mais là, si on doit arriver au niveau des résultats,
on est élu. Voilà, on est au niveau des résultats.
Oui.
Puisque vous parlez des institutions issues des élections, il y a moins de 3 ans que ces institutions sont issues des élections. La crise que connaît le Congo, sous le plan économique et social, est une crise structurelle qui date d'il y a plusieurs décennies, qui date des années 1973, même avant. Donc, lorsque un opérateur politique, au lieu de réfléchir sur les mécanismes pour améliorer notre démocratie, pour améliorer le contrôle, pour améliorer la lutte contre la corruption, se met carrément à dire on n'a rien fait.
Il faut remanier, par exemple.
Après, tout juste 2 ans, au sortir des élections, c'est qu'il y a un oui sous roche. Je crois que c'est une démarche purement politicienne. C'est une démarche purement, s'il vous plaît. C'est une démarche purement politicienne. La crise est structurelle. Il faut travailler. Et je le dis, pendant qu'on est en train de travailler pour améliorer le bien-être de la population, s'il y a un ministre, un premier ministre, qui ne fonctionne pas comme il se doit, heureusement aujourd'hui, il existe des mécanismes constitutionnels pour contrôler et sanctionner.
Mais il paraît que l'Assemblée
l'a demandé. Et lorsque, vous savez, l'opposition ou M. Roubérois n'a pas le monopole de la protection de la population. Lorsque l'on dit qu'il y a des problèmes de transport en matière de santé et tout ça, c'est la même chanson. Même lorsque j'étais étudiant, dans les années 80, 90, c'est la même chanson. Je ne banalise pas du tout. Je crois qu'il n'y a pas ce monopole. C'est une réalité qui date de longtemps. La crise est structurelle. Et si je prends seulement l'exemple du transport urbain dans la ville de Kinshasa, pendant le règne du schéma 1 plus 4 et aujourd'hui, posez la question à tout Kinois, à quel moment le transport a été amélioré tant soit peu. C'est bien après. Et je peux citer d'autres exemples pareils. Donc, je répète, la crise est structurelle.
Il est vrai.
Je ne dis pas que le gouvernement actuel a pris en charge, comme il se doit,
tous les problèmes sociaux de la population, mais la crise étant structurelle, il n'est pas bon d'aborder les choses par une démarche politicienne en disant « oui, il y a eu élection, mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Nous devons planifier à court terme, à moyen terme et à long terme. Il ne faut pas demander au gouvernement de faire ce qu'il aurait dû faire et être fait plutôt à long terme. Et je m'excuse, puisqu'on a parlé du remaniement. On revient tout souvent sur cela. Le remaniement.
Mais pas trop, hein, apparemment, sur le remaniement.
Non, si je crois qu'il faut améliorer le fonctionnement du gouvernement. Et pour améliorer le fonctionnement du gouvernement, un des mécanismes, c'est notamment le remaniement. Mais il n'y a pas que le remaniement. Et qui a la prérogative pour remanier ? Je l'ai dit, de par la Constitution. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un gouvernement issu de la majorité. Je n'interdis pas à l'opposition de faire des analyses sur, de critiquer le gouvernement, mais la façon dont ce remaniement est présenté par Roubaix-Roi démontre qu'il y a un objectif politicien, sur mon point de vue. Mais à titre personnel, je crois qu'il y a lieu d'améliorer le fonctionnement du gouvernement, notamment par un remaniement, s'il y a lieu.
Ouais, on va aller rapidement à votre réponse. Les démarches politiciennes du RCD.
C'est un raisonnement trop réductionniste, trop simpliste, à mon avis. Parce que, et d'abord, nous parlons par exemple, on n'a pas parlé des remaniements, on a parlé du changement du gouvernement. Il a parlé de changement.
Ça veut dire quoi, le changement?
Profondément. Ça veut dire que, il faut évaluer le gouvernement, ministère par ministère, et évacuer ce gouvernement, fondamentalement, s'il le faut. Ça, c'est des un. De deux, il a parlé ici de la planification. Ma foi, si deux ans, à peu près trois ans maintenant, après les élections, il n'y a rien de tangible, il n'y a rien de palpable, en dépit du fait que d'ailleurs, Roubaix-Roi a reconnu que par-ci par-là, il y a des ministres, qui se distinguent quand même par quelques actions notables. Et donc, en le sens, cette remarque pratiquement de Roubaix-Roi, qui reconnaît quand même par-ci par-là, il y a des choses qui ont été réalisées. Si deux ans après, il n'y a rien de fondamental qui traduit un génie politique novateur, parce qu'il faut comprendre la fonction transformationnelle de ces élections. Ce ne sont pas des élections routinières, comme dans notre pays. Ce sont des élections qui ont répondatrices, qui ont lieu après plusieurs années de tribulations. Et donc, ce sont des élections qui sont censées propulser, je veux dire, catapulter la nation vers des horizons meilleurs.
Mais par rapport à la critique de Romain Lecour, il a dit que la crise est structurelle.
Elle n'est pas structurelle, elle est multidimensionnelle. La crise n'est pas simplement structurelle, elle est multidimensionnelle, elle est structuro-culturelle, elle est métapolitique. La crise n'est pas seulement structurelle. Même alors, lorsque vous avez réalisé que la crise est structurelle, plutôt une politique, qui a fait une analyse pertinente et qui a réalisé que la crise est structurelle, il est censé ficeler, n'est-ce pas, articuler, n'est-ce pas, des politiques publiques pour que, au moment où il a remporté les élections, qu'il mette en marche une machine étatique qui est capable de répondre rapidement, n'est-ce pas, à la problématique de cette crise structurelle.
Oui.
Maintenant, je vous l'ai dit ceci.
Oui,
la démocratie après les élections, il y a ce qu'on appelle les indices de démocratisation. Il y a ce qu'on appelle le repère de transformation.
Donc, ce ne sont pas des
indices qui trahissent un génie de développement du pays. C'est de la routine. On assiste à une politique mobutienne. Écoutez, quand il parle des bus, mais Mobutu, dans ce pays, nous avons pris place à bord de ces bus, de OTCC, des banques de bus Mercedes, dans ce pays ici, non? Je pense que le fait qu'on ait amené un ou deux ou trois bus, c'est pas ça qui trahit les génies transformateurs.
Donc si on comprend pour vous, ce n'est pas une démarche politicienne.
C'est pas une démarche politicienne, c'est un cri de cœur par rapport à une misère palpable, par rapport à une misère, comme j'ai dit, qui en fait remet en question notre statut d'acteur politique réfléchissant, rationnel.
Excusez-moi, il y a beaucoup de critiques comme ça. Hein, je prends comme ça un auditeur qui appelle Sadiki Douvira, au sud Kivu. Lui, il s'est dit que le RCD n'a pas de leçon à donner parce que, dit-il, il n'est pas le vrai modèle. Le parti de Roubaix-Roi, je cite encore, a été pour la population de l'Est le sentier de souffrance et non de la démocratie. Ça, c'est qu'appelle Sadiki qui le dit. Mais il y a aussi des critiques, notamment du côté du MSC, avec Jean-Lucien Boussa, il est député national. Lui, il parle de dérive présidentialiste au lieu de dictature, comme vous le dites. Et par ailleurs, il estime que à Terras, Roubaix-Roi et le RCD, vous êtes très mal placé pour accuser le gouvernement de dictature. Je vous propose d'abord de suivre Jean-Lucien Boussa, député national du MSC, au téléphone de Guy Roger Niapala.
Mon parti, le MLC, a toujours considéré qu'il y avait une dérive présidentialiste dangereuse qu'il fallait absolument arrêter. Si c'est ça qu'il appelle dictature, je lui laisse le soin d'utiliser le mot qu'il veut placer à la place. Cependant, je considère que Azarias Rubero est très mal placé avec le RCD pour accuser le pouvoir en place de dictature, car on ne peut pas soutenir une thèse et son contraire. La thèse, c'est qu'il qualifie le gouvernement actuel de dictatorial. Mais le contraire, c'est qu'il participe à la consolidation de cette dictature. Une attitude ambivalente, et je trouve cette attitude très dangereux. Le RCD avec l'AMP gouverne 4 provinces.
Voilà. Là, c'est, vous allez répondre rapidement, hein, Kamasubambo. En une minute, excusez-moi, en une minute, parce que je renchéris avec Aluta qui nous écrit des bénis parce que ça va dans le même sens. Lui, il dit que le gouvernement d'Izenga doit démissionner comme l'a recommandé Rubero. Mais quel sort réserve-t-il à ses membres qui font partie de ce gouvernement, ici le gouverneur Kapuku du Conseil occidental, les Seropoul, et ainsi de suite. Rapidement, votre.
Mais je pense que l'honorable Jean-Lucien Boussa doit s'informer. Le fait que la partie politique ait une interaction à un niveau, un palier provincial avec une autre force politique ne signifie pas nécessairement que l'on fait partie du pouvoir central. On est à l'opposition. L'opposition, il n'y a aucun auteur, il n'y a aucune pratique politique qui définit l'opposition par rapport à une interaction politique en province. En Afrique du Sud, vous avez l'ANC et le DP qui ont fait l'alliance au niveau du CAP. Le DP n'est pas au pouvoir. Et donc, l'honorable Lucien doit s'informer de deux.
Une dérive rapidement,
donnez-moi l'occasion. Lorsqu'il dit une dérive présidentielle, c'est pas une mauvaise chose. S'il parlait plutôt d'une dérive présidentialiste, en ce moment-là, il y aurait problème. Donc, il doit s'informer.
Voilà. On prend d'abord Bonigaba. Rapidement, hein, Bonigaba, vraiment une minute parce qu'on doit clôturer cette première partie de l'émission. Allez-y, Bonigaba, réaction. Aubert, vous allez avoir la parole.
Oui, en une minute, je dirais que le représentant de la majorité qui a parlé de crise structurelle. Effectivement, s'il y a crise structurelle, il faut des réformes structurelles et même structurantes. C'est de cela que nous parlons lorsque nous disons qu'il faut tout revoir. Il faut effectivement faire en sorte que les gouvernants soient mis en face de gouverner qui comprennent les enjeux et qui savent sanctionner en conséquence. Parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire à une démocratie folklorique qui consiste à donner des mandats aux gens sans savoir ce qu'ils vont faire et donc sans savoir contrôler et donner les sanctions conséquentes.
Voilà. Non, Kamasuba, s'il vous plaît. Vous avez déjà parlé, attendez votre tour, on donne d'abord à Aubin la parole.
Bon, parce que je crois qu'on a utilisé des termes assez forts, dérive présidentialiste, dictature. Je crois que c'est vraiment en marge de la réalité. Nous avons un gouvernement issu d'une majorité. Une majorité que je qualifierais même d'écrasante. Ce n'est pas péjoratif, parler de majorité écrasante. Et c'est cette majorité qui dirige. Ce n'est pas faire de la dictature. Il faut attendre les prochaines élections, parce que nous avons consacré l'alternance pour prendre le pouvoir par la voie des urnes. Mais aujourd'hui, c'est une majorité écrasante qui gouverne. Ce n'est point de la dictature. Ça, c'est vraiment ne pas comprendre les concepts.
Voilà.
Concernant la crise, la réforme structurelle, à crise structurelle, il convient une réforme structurelle. Je suis tout à fait d'accord avec cela, mais la réforme structurelle se fait dans une planification, dans le temps, à court terme, à moyen terme, à long terme.
Est-ce qu'on peut dire que le remaniement ne suffit pas?
Oh non, je crois que c'est deux dimensions différentes.
Écoutez, on doit réfléchir, on doit donner de la matière à réflexion aux auditeurs, on ne doit pas parler simplement parce qu'on doit parler. Un régime présidentiel, ce n'est pas une mauvaise chose. Dérive présidentielle, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est plutôt un régime présidentialiste.
Là, c'est trop de pouvoir.
En fait, c'est un régime, c'est la tyrannie, en fait. Et donc ça c'est une mise au point. Mais non, je suis tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il faut planifier. Peut-être que le changement de gouvernement, dans l'ensemble des solutions, le changement du gouvernement, c'est à vue. Mais, de manière générale, la démocratie suppose, comme dirait Kamana, les fameux théologiens et philosophes congolais, comme qui dirait, il faut réinventer, en fait, le mental.
On va y revenir parce qu'on va parler de perspective. Là, c'est dans la deuxième partie de l'émission. Je rappelle que nous parlons du 10e anniversaire du RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie. En cours de cet anniversaire, Azarias Rubero, président de ce parti, critique la dictature de la majorité au pouvoir. Quelle perspective pour la démocratie en RDC? Nous en parlons dans la deuxième partie de cette émission.
Dialogue entre Congolais.
Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Robert Roy critique la dictature de la majorité au pouvoir. Quelle perspective pour la démocratie en RDC? Jean-Pierre Mbouébois, professeur de sciences politiques à l'Université de Kinshasa et faculté catholique, lui pense qu'il est souhaitable que les membres des organes de contrôle assument leurs responsabilités, cela en exerçant le contrôle sur les gestionnaires pour que la population tire les dividendes de la démocratie. On écoute le professeur Jean-Pierre Mbouébois, encore une fois, au téléphone de Guy Roger Nyampala.
C'est souhaitable que les membres des organes de contrôle assument leurs responsabilités en exerçant le contrôle sur les gestionnaires. Quand vous parlez avec tous les Congolais de la rue, ils disent qu'ils ne voient pas les actions du gouvernement. C'est une critique qui est objective. Lorsque nous vivons au Congo, nous pouvons quand même constater qu'il y a beaucoup d'inactions, beaucoup de choses qui ne sont pas réalisées. Mais, étant donné que nous sommes dans un processus, il faut encourager, n'est-ce pas, l'institution à bien fonctionner et surtout à devenir efficace.
Concrètement, comment cela peut se faire, professeur?
Moi, je vois les organes délibérants, hein, par exemple le Parlement. Que ces organes-là, les assemblées provinciales, le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, qu'ils contrôlent effectivement ce qu'ils gèrent. Parce qu'actuellement, ce qu'il y a, c'est que la majorité qui est au Parlement fait bloc chaque fois pour protéger ceux qui gèrent, simplement parce qu'ils sont de leur parti. Et pourtant, à l'état où nous sommes, il est important que ceux qui gèrent deviennent efficaces parce que la population attend tirer le dividende de la démocratie.
Modeste Bonigaba, je reviens vers vous. Vous qui êtes analyste politique et membre de la société civile, auteur de plusieurs ouvrages sur les élections et la bonne gouvernance en Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit le professeur Jean-Pierre Mbouébois? Vous êtes d'accord, vous tous, vous dites qu'il y a une crise structurelle, mais le professeur insiste sur le fait qu'il y a un problème de fonctionnement des institutions et il va tout droit en disant que le Parlement doit renforcer son contrôle sur notamment le gouvernement.
Oui, c'est ça, là, disons, C'est le plan formel. Mais en réalité, lorsque nous entrons en profondeur des choses, vous devez savoir que le Parlement est issu du peuple. Il faut que le peuple soit capable de contrôler ses parlementaires pour que ceux-ci fassent correctement leur travail aussi. C'est cela dont nous parlons, nous. Nous parlons du fait que aujourd'hui, il y a comme une coupure, un hiatus entre les élus et leurs électeurs.
Mais qu'est-ce que vous demandez au peuple de faire vis-à-vis de ces élus?
Il faut tout revoir, En fait, ce n'est pas le peuple qui va revoir ça, ce sont les Congolais qui réfléchissent et qui veulent que les choses changent, qui doivent proposer de nouvelles formules. Je vous dis qu'il y a eu un séminaire d'évaluation sur les processus électoraux en Afrique en 2002, et on est arrivé à cette conclusion-là, qu'il faut imaginer de nouvelles formules en ce qui concerne les élections en Afrique pour donner à la démocratie tout son contenu et toute sa portée. Donc, au lieu d'essayer de se pencher sur ces recommandations-là pour voir ce qu'on peut faire pour aller de l'avant, on préfère se contenter de ce qui se passe ailleurs, on imite ce qui se passe ailleurs alors que ça ne marche pas. Vous l'avez vu ce qui s'est passé demain au Zimbabwe, un peu plus tôt c'était au Kenya, et ainsi de suite. Donc, l'Afrique doit apprendre à se mettre en question et chercher des voies nouvelles adaptées aux réalités africaines, c'est-à-dire aux réalités selon lesquelles la population majoritairement mal informée est donc incapable de saisir les vrais enjeux mondiaux d'aujourd'hui,
mais
ne peut pas jouer correctement son rôle de souverain primaire si on ne le réorganise pas correctement.
Voilà, il y a la solution que propose Modeste Mbonigaba. Là, la réflexion, ça risque peut-être d'être une solution à long terme. Mais par rapport à ce que le professeur a dit, il revient, c'est vous en fait qui êtes interpellé parce qu'il parle du Parlement qui doit renforcer son contrôle vis-à-vis du gouvernement. Et le professeur vous dit même que vous faites bloc souvent pour vous solidariser, même quand il y a des ministres de votre famille politique sont incriminés, et adresse Robert Roy à parler même d'une solidarité négative.
Merci. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Mbouébois lorsqu'il est question de renforcer le contrôle parlementaire. Parce que là, c'est faire usage des prérogatives constitutionnelles, et c'est une bonne chose. Et lorsque j'analyse le fonctionnement de l'Assemblée nationale particulièrement, un effort est déjà fait dans ce sens-là, mais il faudrait qu'au niveau des différentes commissions, que le contrôle parlementaire devienne un travail vraiment quotidien, décentralisé, pas seulement à la plénière, mais chaque commission parlementaire, chaque commission permanente devrait chaque jour qui passe être au courant du fonctionnement du gouvernement et poser des questions aux ministres. C'est ainsi que ça se fait ailleurs, sans tralala médiatique, etc.
Mais comment,
par rapport à, au deuxième plan de sa réflexion, quand il dit que la majorité fait bloc, on ne croit pas du tout. Nous pouvons revoir tous les débats lorsque les différents ministres sont passés à l'Assemblée. Il y a eu des tirs croisés venant de l'opposition.
Mais à la fin,
lorsque, à la fin, il s'avère qu'un ministre s'est quand même bien défendu,
selon vous,
il n'est pas dit que nous devons les faire partir nécessairement. Donc, lorsqu'il y a un débat à l'Assemblée nationale suite à une question orale, une question d'actualité, etc., ce débat peut conduire à une sanction directe au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme par une sanction venant des autorités qui nomment ces ministres. Et je crois que nous en sommes qu'à la deuxième année, c'est une expérience naissante. Je ne crois pas. C'est une vraiment expérience récente.
Il faut,
et je crois qu'il faut donner du temps. Autant.
Voilà. Ça va, bon, rapidement.
Bon, je pense qu'on note, on note de manière tout à fait significative les dysfonctionnements ou les déficiences tout à fait criables au niveau justement du déploiement de la fonction coercitive, n'est-ce pas, de nos organes délibérants, de manière générale, que ce soit l'Assemblée nationale ou l'Assemblée.
Vous pensez qu'il faut les renforcer?
Il faut. Non, parce que l'Assemblée nationale, par exemple, est minée par le clientélisme. Elle est minée par des réseaux de camaraderie, de népotisme. Elle est prisonnière de la transposition des intérêts affairistes. Ce qu'il fait d'ailleurs, c'est qu'il ne dit pas, il ne peut pas le dire par élégance du corps dans lequel il opère.
Oui.
Alors, mais c'est la réalité. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les intérêts affairistes se transposent à l'Assemblée nationale, ce qui fait que finalement, on a beau tirer un boulet rouge sur un ministre. Et même lorsque l'on suit la télévision, on se rend compte que...
Et vous pensez que ce sont ces intérêts-là qui sont...
Et à l'informel, on manipule, on fait en sorte que les camarades, parce que justement, Robert a appelé la solidarité négative, que les camarades soient sauvés. Et c'est ce qui se passe parce qu'on ne veut pas nous donner une mauvaise image, une mauvaise figure à la majorité. Et c'est ce qui se passe. Et donc, la nation est prise en otage par justement ce que j'appelle la transposition de l'intérêt.
Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait rapidement
pour enlever la transposition? D'ailleurs, on sait, et ça a été démontré, ça a été écrit, et l'élégance de permettre...
Allez-y.
Et donc, ça a été dit dans le journaux. Il y a eu des analyses pertinentes dans le phare, dans le potentiel, pour démontrer qu'aujourd'hui, les frictions qu'il y a entre une faction, une frange du PPRD, de l'AMP, par rapport, par exemple, au président de l'Assemblée nationale, c'est une collision, n'est-ce pas, de ses intérêts. C'est l'antagonisme, justement, de ses intérêts. M. Caméret et l'honorable Caméret tenteraient, dans la mesure du possible, de faire en sorte qu'il y ait une transparence minimale au niveau de l'Assemblée nationale, mais il s'est cogné âprement à ses intérêts qui se transposent au niveau de l'Assemblée nationale.
C'est vous qui le dites, évidemment.
Oui, c'est moi qui le dis.
Robert Milakou, d'abord, avec rapidement Didier Abio qui nous écrit de Bado à l'Équateur. Lui, il soutient Robéroy, il dit qu'il faut changer le gouvernement et il vous demande si vous pouvez prouver que la vie des Congolais s'est améliorée. Au bien, Milakou.
Oui, je crois qu'il faudrait que je fasse d'abord un commentaire.
Vous avez une minute.
Lorsque un député de l'opposition présente une question d'actualité, question orale, objective, il n'y a pas de problème. Le débat est objectif et la plénière tranche. Mais lorsque il est question de la présentation d'une question à connotation politicienne, l'Assemblée nationale est le lieu politique par excellence et attendez-vous à une réponse politique de la part de la majorité. Parce que si l'opposition a le droit de s'exprimer dans une Assemblée nationale, la majorité a le même droit afin de sauvegarder son pouvoir, sa majorité. Ce n'est pas une honte. Je donne l'exemple du président du groupe parlementaire de l'UMP en France.
lorsque le président Sarkozy décide de l'envoi des troupes françaises en Afghanistan, à titre personnel, il n'était pas d'accord, mais lorsqu'il a été question de voter à l'Assemblée nationale, il a voté contre la démarche de l'opposition et il l'a déclaré tout haut. Donc c'est normal, c'est un droit pour la majorité de se défendre, de sauvegarder sa majorité.
Donc c'est normal.
Deuxièmement, oui. Est-ce que la question par rapport au vécu quotidien du peuple congolais, je dirais que depuis que je suis aux études jusqu'à ces jours, le vécu quotidien du peuple congolais est au point zéro.
C'est une vulgate quand même.
Et au point zéro.
Le vécu
du peuple congolais est au point zéro, n'a pas été amélioré à cause de la crise structurelle. Donc, il revient à nous tous de nous battre pour sortir de cette crise.
Voilà. On va prendre les réactions des auditeurs rapidement, puis on revient vers vous. Titi, bonsoir, vous êtes là pour ça.
Oui, bonsoir Jean-Claude. C'est ni de bouquet pour ceux qui vous se demandent pourquoi le RCD ne se démarque pas de la politique de la majorité que de se limiter aux critiques stériles. Azarias Roubero a raison, il est la voix de son voix. La population ne se retrouve pas dans ce que fait le gouvernement, déclare un auditeur anonyme. Louis de Mbujima et au Kasaï Oriental veut connaître la position du RCD. Vous êtes de l'AMP ou l'UN, si vous pouvez nous fixer. Kapenda Duvira, au sud Kivu, soutient les propos du président du RCD. Car selon lui, la mauvaise gestion se montre publiquement dans toutes les institutions, en commençant par le Parlement, les médias, la magistrature et autres.
C'est tout, voilà. Merci. Il y a une autre réaction, on peut la prendre rapidement. Elle vient de Célestin de Goma au Nord Kivu, parce que lui, il demande à Azarias Roubero, il dit qu'il aurait été bien écouté par le peuple s'il renonçait à tous les postes qui occupent ses membres du parti au sein des entreprises publiques. Le peuple est conscient de certaines défaillances du pouvoir en place, mais le RCD n'est pas écarté de la responsabilité. On va y répondre rapidement, parce que là, il ne reste que 2 minutes. Je vais vraiment vous demander d'être rigoureux. On commence par vous, Bonigaba, au téléphone, essayez de répondre peut-être en 40 secondes, rapidement, Bonigaba, parce qu'on tend vers la fin de cette émission.
Oui, en 40 secondes, je dirais ceci.
Oui.
Au plan économique, le Congo doit arriver à faire en sorte que chaque centime dû à l'État tombe effectivement dans ses caisses et n'en sorte que pour régler ses vraies créances. Et si nous voulons arriver à cet objectif-là, nous devons faire en sorte que les citoyens congolais soient plus exigeants, plus revendicatifs et donc plus pointilleux sur la manière dont leur patrimoine est géré. Or, la configuration politique actuelle ne permet pas cela. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut des réformes en profondeur. Nous aurons l'occasion peut-être d'y revenir à une autre occasion.
Merci beaucoup, Bonigaba, pour votre concision. On revient dans ce studio avec vous, Aubert Minaku, rapidement.
Bon, j'ai été invité à l'occasion, je crois, du 10e anniversaire du RCD, le 2 août, à partir du 2 août 98. J'aimerais en tout cas, pour avoir une conscience tranquille, dire que le 2 août 1998 me rappelle une guerre d'agression contre mon pays. Ça me rappelle la perpétration de nombreux crimes internationaux contre les populations de mon pays, particulièrement à l'est de la République. Ça me rappelle l'ignominie totale dans laquelle nous avons été, notamment lorsque 2 troupes étrangères, Rwanda, Ouganda, se sont battues sur le territoire congolais.
Malheureusement, c'est vers la
fin. Et ce n'est pas rose.
Malheureusement, c'est vers la fin. On va sûrement y revenir.
Ce qu'on appelle, monsieur le journaliste, permettez l'élégance, me laissez parler, s'il vous plaît. C'est ce qu'on appelle l'argumentation par la manipulation émotionnelle. Il faut que l'on grandisse avec l'argumentation, n'est-ce pas ? Par la persuasion rationnelle. Et ça, c'est deux. J'ai grandi au camp Kokolo. J'ai 47 ans. J'ai grandi au camp Kokolo. On a bien vécu. On avait une vache chaque année. On mangeait ce qu'on appelait le Mabundu. Les Thompson, c'était pour les Ambolo et les civils. Et donc, dans ce pays, il y a un moment où on a très bien vécu. Alors, si le PPRD ne sait pas que dans ce pays, on a bien vécu, on comprend pourquoi
on
a pas.
On y reviendra.
Pour une démocratie participative, monsieur le journaliste, qui consiste à respecter les droits de l'homme.
Merci beaucoup.
Pour que le peuple s'exprime et contrôle l'État.
Merci, Kawasu Babo. Mais on y reviendra pour voir si c'est le 10e anniversaire du RCD ou du début de la guerre. On y reviendra. C'est la fin de cette émission. Julien Lungamba était à la technique. Kevin Couté à la réalisation. À tous, merci de nous avoir suivis.
Oh, Kathy, oh, Kathy.